Chapitre 27. Le soleil ne va plus tarder à se coucher derrière le coteau. Fanette se hâte, elle doit terminer son tableau. Son pinceau n'a jamais glissé aussi vite, en taches blanches et ocre, reproduisant le moulin et sa tour biscornue. Le grand arbre rouge cerise et argent au milieu de la cour. La roue à aube qui trempe dans l'eau vive. Elle est concentrée. Mais aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est James qui n'arrête pas de lui causer. « Tu as des amis, Fanette ?»«
Et toi, James, est-ce que je te demande si tu en as ?»«
Bien sûr. Qu'est-ce que tu crois ?»«
Tu es souvent seule. »«
C'est toi qui m'as dit d'être égoïste. Quand je ne peins pas, je suis avec eux. »
James marche lentement dans le champ et referme ses chevalets les uns après les autres. Il suit toujours le même rituel quand le soleil commence à se coucher.
« Mais puisque tu me demandes, je vais te dire. Il m'énerve. Surtout Vincent, celui que tu as vu l'autre jour qui nous espionne. Un vrai pot de colle. »«
De vernis. »«
Quoi ?»«
Un pot de vernis. C'est plus utile qu'un pot de colle pour une fille qui peint. » »«
Des fois, James, il se croit drôle. » »«
Il y a aussi Camille, mais lui, il se la raconte trop. Il pense qu'il est né surdoué, tu vois le genre. La dernière de mon âge, c'est Marie. » Celle qui pleure tout le temps, la faillotte. Je l'aime pas, c'est comme ça.
Il ne faut jamais dire cela, Fanette.
Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit.
Il ne faut pas dire quoi?
Je t'ai déjà expliqué, Fanette. Tu es une petite fille très gâtée par la nature.
Si, si.
Ne fais pas celle qui ne le comprend pas. Tu es mignonne comme un cœur, intelligente, bourrée de malice. Un don incroyable pour la peinture t'est tombé sur les épaules, comme si une fée avait dispersé sur elle de la poudre d'or. Alors il faut faire attention, Fanette. Les autres seront jaloux, toute ta vie. Ils seront jaloux parce qu'ils auront des vies beaucoup moins heureuses que la tienne.
N'importe quoi! Tu dis n'importe quoi! De toute façon, mon seul copain qui vaille le coup, c'est Paul. Tu le connais pas encore. Je viendrai avec lui un soir. Il est d'accord, lui. On fera le tour du monde, ensemble. Il m'emmènera pour que je puisse peindre. Le Japon, l'Australie, l'Afrique.
Je ne suis pas sûre qu'il existe un homme qui accepte ça.
Des fois aussi, James, il m'énerve.
Si, Paul.
Fanette lui fait une grimace pendant qu'il se retourne pour ranger sa boîte de peinture.
Il y a des moments, James, il ne comprend rien. D'ailleurs, je ne comprends pas ce qu'il fait. On dirait qu'il est resté coincé devant ses tubes de peinture.
T'es bloqué?
Non, non, ça va.
Il fait une drôle de tête. Il est bizarre, James, des fois.
Tu sais, James, pour la Fondation Robinson, j'ai envie de peindre autre chose que le moulin de la sorcière. Ton histoire de refaire ton tableau du père Trognon, ça me dit pas trop.
Tu crois? Théodore Robinson a...
J'ai mon idée,
coupe Fanette.
Je vais peindre des nymphéas, mais pas façon vieillard à la Monet. Je vais peindre des nymphéas de jeunes.
James la regarde, comme si elle venait de proférer le pire des blasphèmes.
Il est tout rouge. J'ai l'impression qu'il va exploser. Oh, ça va, fais pas ta tête de père Trognon.
Fanette éclate de rire. Monet? Des nymphéas de vieillard ? S'étouffe James. Il tousse dans sa barbe, puis se met à parler lentement d'une voix de professeur. Je vais essayer de t'expliquer, Fanette. Tu sais, Monet a beaucoup voyagé. Dans toute l'Europe. Il s'est inspiré de toutes les peintures du monde. Tu dois comprendre, elles sont très différentes. On ne voit pas les choses de la même façon ailleurs. Monet l'avait compris. Il a surtout étudié la peinture japonaise. Ainsi, ensuite, il n'avait plus besoin de voyager ni de partir autre part. Un étang de nénuphars lui a suffi pendant 30 ans de sa vie. Un étang de rien du tout qui a été assez grand tout de même pour révolutionner la peinture du monde entier. Et révolutionner même plus que la peinture, Fanette. C'est tout le regard de l'homme sur la nature que Monet a révolutionné. Un regard universel, tu comprends? ici, à Giverny, à moins de 100 mètres de ce champ. Alors quand tu prétends que Monet avait un regard de vieillard...
Nya, 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 nya.
Eh bien moi,
s'use la voix claire de Fanette,
je ferai l'inverse. Je suis née ici, c'est quand même pas de ma faute. Je commence par l'étang des nymphéas et je termine par le monde. Tu vas voir, mes nymphéas seront uniques, comme Monet lui-même n'a pas osé. En arc-en-ciel.
Soudain, James se baisse vers Fanette et la prend dans ses bras.
Il est à nouveau bizarre. Il a encore ce drôle d'air inquiet. Un air qui ne lui ressemble pas.
C'est sûrement toi qui as raison, Fanette. C'est toi l'artiste, après tout. C'est toi qui sais.
Il me serre trop fort, il me fait mal.
N'écoute personne d'autre que toi-même, continue James. Pas même moi. Tu vas le gagner, ce concours de la Fondation Robinson, Fanette. Tu dois le gagner. Tu m'entends, hein? Allez, fonce maintenant. Il est tard, ta mère t'attend. N'oublie pas ton tableau. Fanette s'éloigne dans le champ de blé. James lui crie une dernière recommandation.
« Tu es ce don en toi! Ce serait le pire des crimes !» Des fois, James, il dit des trucs bizarres.
James regarde la fine silhouette courir tout en se penchant à nouveau vers sa boîte de peinture. Il attend que Fanette ait disparu derrière le pont et l'ouvre en tremblant. Il n'a rien voulu laisser paraître devant Fanette, mais maintenant il sue à grosses gouttes. Une sorte de panique le saisit. Ses vieux doigts s'agitent malgré lui. Les charnières rouillées crissent légèrement. James lit les lettres gravées dans le bois tendre à l'intérieur de la boîte de peinture. « Elle est à moi. Ici, maintenant et pour toujours. » Les mots gravés sont suivis d'une croix. Deux simples traits qui se croisent. James a bien compris qu'il s'agit d'une menace de mort. Il sent son vieux corps maigre être parcouru de frissons incontrôlables. Déjà, les flics qui fouillent partout dans le village à cause de ce cadavre dont on n'a pas retrouvé l'assassin, cela ne le rassure pas. Toute cette ambiance le presse. Il lit, encore et encore. Qui a pu écrire cela ? L'écriture lui apparaît maladroite, pressée. Le vandale a dû profiter qu'il dormait pour graver cette menace morbide dans sa boîte de peinture. Ce n'est pas bien difficile. Il s'endort souvent dans le champ, au pied de ses toiles, lorsque Fanette ne vient pas le réveiller. Qu'est-ce que cela peut signifier ? Qui a pu écrire cela ? Doit-il prendre au sérieux ces menaces ? James observe le rideau de peupliers qui ferme l'horizon de la prairie. Les lettres semblent inscrites dans son cerveau maintenant, comme gravées sur la chair tendre de son front. « Elle est à moi, ici, maintenant et pour toujours. » Une autre question le taraude, désormais. Une question obsédante, qui l'angoisse plus encore que celle de savoir qui a proféré cette menace. Sa main s'agite de tremblement. Il serait incapable de tenir un pinceau, un couteau, n'importe quoi. Elle est à moi, ici, maintenant et pour toujours. En un manège infernal, il tourne les 9 mots dans son esprit. À qui s'adresse cette menace ? Il scrute les alentours comme si un monstre allait surgir d'entre les épis. Sur qui plane le danger ? Sur Fanette ou sur lui ?